ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Sonia Simcha Bat Rachel, la question de Samuel.
Pourquoi Dieu il utilise autant de noms différents pour lui, et aussi pourquoi il a écrit UTFK et pourquoi il dit Amen.
Ok, deux questions. D'abord, pourquoi Hachem a-t-il tellement de noms? Ça veut dire. Deuxièmement, pourquoi son nom essentiel, comme on va voir, qui est le nom ineffable qu'on ne prononce pas, constitué de quatre lettres Yud, et puis il faut dire et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, ou qu'on appelle aussi Yud Ke Vav Ke, on dit à la place de Hey, on dit Ke, pourquoi on ne peut pas l'appeler par ce nom? Et pourquoi on l'appelle avec un pseudonyme, Ado, et puis Naï, que lui aussi on peut prononcer, mais on ne peut pas prononcer en vain. J'ai dit Ado, et puis Naï, mais ça se dit en un mot. Par exemple, Adonai, Imlor, Amvaed, d'accord? Dans le cadre d'un verset qui a un sens. Ok, réponds à la première question. Bon. Je donne un exemple avec nous-mêmes. Bon, prenons un exemple qui ressemble, quand on parle d'Hachem, c'est très dur de parler des exemples terrestres. C'est l'histoire de mettre en relief, mais c'est différent, il faudra quand même dire, il y aura une différence entre l'exemple et la réalité divine. Si ma main flanque une gifle à quelqu'un, ce quelqu'un me dira, pourquoi est-ce que tu m'as flanqué une gifle? En fait, je peux lui dire, c'est pas moi. Parce que qui c'est mon moi? C'est pas ma main. Si je prends la main, et grâce à l'homme, je la coupe. Moi, je reste. Je reste. Donc la main, c'est pas moi. Mais d'un côté, je peux pas non plus dire que c'est pas moi. Parce que lui, comme je le dis souvent, il me flanque une autre tarte. Il me flanque une tarte de retour. Il dit, moi, je sais pas ce que ma main lui arrive aussi. Je vais pas lui dire, c'est... Pourquoi tu me flanques une gifle? Il dit non, c'est pas moi, c'est ma main aussi. Donc les mains s'arrangent entre elles. Donc c'est lié à moi. Quand on parle de Dieu, il y a son nom intrinsèque qui est Yudke Vavke, dont on va étudier après à quoi ça correspond, Yudke Vavke. Maintenant, Hachem, il agit dans ce monde par le biais de voix divine. Comme des mains de Dieu, si tu préfères. La main de Dieu, bien que ce n'est pas lui dans sa réalité intrinsèque, comme ma main, c'est pas moi, moi, dans ma réalité intrinsèque, c'est mon âme. C'est celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui pense, celui qui veut, celui qui commande le corps, d'accord? Mais c'est pas le morceau de corps. Preuve en est que si on coupe la main, moi je reste. Donc ce moi, qu'on va appeler je, d'accord? Je, ça correspondrait à la divinité au nom Yudke Vavke. C'est la vraie réalité d'Hachem, intrinsèque, interne, lui. Yudke Vavke, c'est à lui qu'on s'adresse. Maintenant, il agit dans ce monde au moyen de manifestation de lui-même. Comme ma main était manifestation de moi-même, c'est pas complètement moi-même, c'est une manifestation de moi-même. Mais tout celui qui regarde à l'extérieur et voit une manifestation de moi-même, il dit c'est moi. Quand je flanque une gifle à quelqu'un, il va dire il m'a flanqué une gifle, pas sa main m'a flanqué une gifle. Parce que la main et moi font un. Donc, par exemple, prenons le nom Elohim. Elohim, c'est la voie de conduite d'Hachem de justice, de rigueur céleste. C'est aussi la voie de conduite d'Hachem responsable de la gestion naturelle du monde. Elohim, valeur numérique en hébreu, Hateva. Hateva signifie la nature. Les scientifiques parlent de la nature, comme la nature est précise, comme la nature est intelligente, comme la nature, on dirait que c'est, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là, d'accord? Dieu n'existe pas, il y a la nature. Ben, nous disons, oui, ben c'est une manifestation d'Hachem. Hachem gère la nature. Quelle voie de gestion utilise Hachem pour gérer la nature, il apparaît, Dieu apparaît, c'est une manifestation d'Hachem par le mot Elohim, par son nom Elohim. Hachem, il peut être gestionnaire naturel, il peut être maître de tout, ça sera le nom Ado Epinai, qui va du mot Adon. Adon signifie le maître. On dit à quelqu'un Adoni, mon sieur, d'accord, monsieur en français, ça vient étymologiquement, mon sieur, mon seigneur. Adon, c'est un seigneur, c'est un maître, Adoni, monsieur veut. Alors quand je parle d'Hachem, on va faire une voix, une formule plus honorifique, on dit Ado et puis Naï, pas Ni, mais Naï. On peut dire aussi Ado et puis Naï en Chol, quand on ne parle pas à Dieu, quand on parle à des êtres. Par exemple, on aura plusieurs personnes qui sont nos maîtres, on leur dira Adonai. Tu vois que je dis maintenant, mais je pense le dire dans une optique que ce n'est pas le nom de Dieu. On voit ça dans la Torah. Abraham, il voit les trois anges, il court vers eux, il leur dit Ado et Pinaï. Alors, il y a deux avis dans Chazal. Est-ce que c'est Chol ou Kodesh? Est-ce que c'était profane? Il leur a parlé en tant que mes seigneurs? Ou bien il a parlé à Hachem? Ce sont des manifestations d'Hachem. Il a vu que ce sont des anges, des manifestations d'Hachem. Donc le mot Adon, le mot Adon Enai, revient de la racine Adon, qui signifie maître. Dans la mesure, quand on dit ce mot-là, il faut penser maître de tout. Donc Hachem peut apparaître comme étant le gestionnaire, la justice, le maître de tout. Quand on l'appelle dans son nom Yud Kevav qui est intrinsèque, c'est lui, mais c'est aussi dans sa miséricorde. Il y a ainsi plusieurs noms de Dieu qui correspondent à différentes manifestations d'Hachem, c'est-à-dire de voies de manifestations différentes.
Pourquoi il y a eu besoin de se décomposer comme ça? Pourquoi pas prendre un qui est zéro? Où il aurait pu utiliser un chef de
mode? Un est dans la phrase, il décrit comme ça, c'est pas
vrai. 72 quand même.
Mais Hachem veut agir de façon différente.
Oui, il aurait pu agir de façon différente avec un maintenant, c'est ça.
Bah, Hachem a le même forage.
Chaque type d'action.
C'est quoi, ça veut nous apprendre par rapport à nous.
Chaque type d'action appelle là un nom d'Hachem. C'est une voie qu'il emprunte. Hachem veut, des fois il veut utiliser la rigueur, des fois il veut utiliser la miséricorde.
Mais dans la phrase, il aurait pu. Enfin voilà, on écrit Yud Kevavke.
Toujours c'est Yud Kevavke.
Yud Kevavke, là il est sévère.
C'est toujours Yud Kevavke. C'est toujours lui qui agit. Maintenant, quand on veut exprimer, qu'il se manifeste, Yud Kevavke se manifeste maintenant par sa voie de conduite de rigueur, il dira Elohim. Cette voie de conduite, elle est divine.
C'est un surnom, alors.
C'est comme ma main. Il y a ma main qui fait comme ça, pour donner un point. Et il y a ma bouche qui fait un sourire. Les deux, c'est moi. Mais une fois, j'apparais comme... C'est écrit par exemple que les Hébreux sortent d'Égypte. Ils ont vu Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. Ils l'ont vu comme un chevalier sur son cheval. Et après, ils l'ont vu au mont Sinaï comme un chaliar tzibour, un officiant, ministre officiant, enveloppé d'un talit en train de prier. Alors, Dieu, il est où? C'est un chevalier ou c'est un ministre officiant? Décide. Ben, c'est la même entité qui apparaît lorsqu'elle est en train maintenant de faire la guerre comme un chevalier. Comme elle est en train maintenant de donner la Torah, elle apparaît sous un aspect de ministre officiant entouré d'un talit, enveloppé d'un talit.
C'est comme nous.
C'est comme nous.
Je peux être violoniste et je peux être monsieur et je peux être roi. Enfin, je ne lâche pas, j'ai plusieurs.
Tu as plusieurs façons, voies d'action, absolument. Alors quand on parle, quand tu es violoniste ou tu fais la cuisine, ok, c'est peut-être le même Warren qui fait la cuisine ou qui joue du violon. Mais quand on va parler de toi dans ta... Toi, je te vois toi maintenant. Toi aussi maintenant, tu peux montrer ton poing. Alors c'est, oulala, papa il n'est pas content, ton fils, d'accord. Ou bien, tu fais un grand sourire. Qu'est-ce qui se passe? Même en toi, ça se passe chez nous aussi. Chez nous aussi, on a des voies de rigueur et des voies de miséricorde. Tu vois que tu utilises des voies différentes. Dans un cas, avec un enfant ou avec un élève, tu seras plus dur, plus Rahman, parce que tu comprends que dans ce cas-là, il faut être... Tu peux avoir deux élèves. Un, je ne sais pas moi, il est orphelin, et c'est un pauvre misken, et pour le même acte qu'il a fait, tu seras beaucoup plus doux avec lui, avec plus de considération qu'un autre, qui s'est fait la dixième fois, pour le même acte, d'accord? Un, tu seras plus dur, un, tu seras moins dur. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur de toi? Ta tête va décider maintenant quelle voie de conduite je vais adopter. Celle de la rigueur, celle de la miséricorde. Hachem aussi. Maintenant, alors, quand nous, on reçoit le message, l'apparition de Hachem qui nous apparaît, comme l'enfant, il va dire, oulala, ici, papa, il est menaçant, ou papa, il est gentil, gentil papa, ou grand papa. Tu as des apparitions de toi-même, en fonction de la situation, que tu décides d'utiliser maintenant cette voie de conduite ou cette voie de conduite. Donc Hachem aussi. Ce n'est pas qu'il a décidé, il a des manifestations différentes. Donc nous l'appelons ainsi en fonction de ses manifestations. Ça, c'est pour les différents noms d'Hachem. Maintenant, le nom Yudke Vavke, qu'est-ce que c'est que cela? Ça, c'est beaucoup plus profond. Alors, des choses extrêmement profondes et délicates. Le Rashba, et je crois que c'est le Rabbi Chaim de Volozhin, les deux, ils expliquent quel est le terme Baruch. Quand je dis Baruch Ata Hashem, l'enquête de Machaolam, Shakol Yam Belibaruch, je fais une bracha. Baruch Ata Hashem, c'est quoi? En français, on traduit bêtement. Béni sois-tu, l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Dieu a besoin de mes bénédictions. C'est une blague. Ça veut dire quoi, je bénis Dieu?
On le loue, quoi. C'est pas de la bénédiction.
Alors, il y en a qui disent, c'est une sorte de merci. Il y a un avis qui dit comme ça, à Boudrem. Mais les commentateurs plus profonds expliquent une chose beaucoup plus profonde. Comme tu as dit, béni. Tu es Hachem, tu es la source de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Tu es la source de bénédiction. On ne parle pas de Hachem. On dit que quand je dis béni à ta Hachem, on amène un flux de la source de bénédiction à Hachem. Je m'explique. Il est absolument impossible qu'Hachem, béni soit-il, dans sa réalité intrinsèque divine, il est un nom. Parce qu'il est bien plus haut qu'une chose pareille. Un nom, c'est déjà quelque part défini, je ne vais pas dire limitatif, parce que ce n'est pas le cas, parce que son nom exprime l'infini. Yudke Vavke, c'est une contraction de trois mots, Hayor Beveye, qui était et sera, donc c'est l'infini. L'éternel, comme on le traduit en français. Mais néanmoins, le fait que je puisse déjà dire un nom, c'est une définition. Or, Hachem, il est tout sauf définissable. Quand on le définit toujours parce qu'il n'est pas. Il n'a pas de corps, il n'a pas de limite. Mais qu'est-ce qu'il est? Personne ne sait. Les enfants, ils ont tendance à imaginer. Nous aussi, des fois, imaginer Hachem, ou une barbe, ou une lumière. D'accord? Tout ça, c'est du mensonge, c'est de l'imagination, ça veut le mot image. Or, tu n'as pas d'image. Donc, il faut arriver à dépasser l'imagination, avoir une pensée pure qu'Hachem il est sans que j'ai d'image à cela. Qu'est-ce qu'il est, on ne sait pas. Maintenant, dans sa réalité intrinsèque, on n'en parle même pas. Même pas le droit d'en parler, et même pas, je ne sais pas si on a le droit d'y penser, à la réalité intrinsèque d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement haute que quand tu vas en parler ou regarder, c'est comme tu te mets en tant que définisseur aussi, tu te mets à l'extérieur et tu commences à parler d'une chose. C'est trop haut pour que tu puisses en parler. Cette réalité infinie d'Hachem, elle a voulu pouvoir se manifester à l'humanité. Alors, elle se manifeste au moyen d'un nom, qui est Yudke Vavke. Prenons un exemple toujours sur l'être humain. Il est écrit « Mebessare Echazé Eloka »« De ma chair, je peux voir Dieu ». C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre notre réalité et celle d'Hachem. Bien sûr, en tant qu'exemple, et une réalité bien plus haute. Mais on peut comprendre beaucoup de choses du fonctionnement de la gestion du monde qu'à Hachem, comme un être humain aussi se gère. Quand vous me parlez, vous vous adressez à mon visage. N'est-ce pas? Et quand je vous parle, idem. Si on voulait être vraiment des êtres s'adressant à notre réalité intrinsèque, et qu'on admet que notre Neshama, elle est au-dessus de nous. On a plusieurs parties. Nefesh, roi, Neshama. Neshama, elle est au-dessus. Le roi, Neshama, il rentre déjà dedans, mais Neshama, l'essentiel, est au-dessus. Donc je devrais parler, je prends Yochai, Yochai, tu peux s'il te plaît me passer ce livre ? Le livre répond, oui Rav, je vous l'amène. Chacun parle à la neshama de l'autre. On n'agit pas ainsi. Pourquoi ? On n'a aucun moyen d'être en contact, en bon français, d'appréhender la neshama. C'est pas où elle est, qui elle est, elle ne discute pas. Que fait la neshama ? Elle s'exprime au moyen du visage. Panim en hébreu, panim. Mais la racine pnim qui signifie intérieur. En voyant le panim, je peux voir l'intérieur de la personne. Je peux voir s'il est heureux, malheureux, de bonne humeur. Les personnes qui ont Ruach HaKodesh, ou pas Ruach HaKodesh, même moins, disons, les gens qui voient des choses, voient sur le visage. Rabbi Chaim Vital, il dit qu'on peut voir tout sur le front. Alors, il dit qu'on voit des lettres qui apparaissent à l'envers, à l'endroit plus lumineuse. Je n'ai jamais rien vu, d'accord, mais il paraît que les gens qui sont très purs peuvent voir des choses. Pourquoi ? C'est un morceau de chair. Non. Mon panim, mon visage, il exprime le pnim, l'intériorité, ma neshama. Mon « je » intrinsèque s'exprime par mon visage. Un point tel que lorsque je ne suis pas un grand comédien, la PNL par exemple, la PNL, elle va analyser maintenant les réactions du visage. On sait que quelqu'un, oui, regarde, ça signifie des choses différentes. Les grands spécialistes peuvent voir, en fonction du regard qu'a quelqu'un, presque qu'est-ce qu'il se pense. Les grands vendeurs, en vente, on utilise beaucoup, hélas, dans la vente, on utilise cela. Quelqu'un, par exemple, voilà, tu fais une proposition, tout ça, puis tu vois qu'il regarde un peu vers la gauche, en bas. Ah là, il est tout près de... On sait exactement comment faire maintenant. Les gens qui savent comment faire savent aussi jouer le jeu pour pas qu'eux soient pris au piège. On appelle ça des grands menteurs, d'accord ? Un grand menteur, c'est quelqu'un qui va cacher, qu'on puisse pas voir sur son visage ce qui se passe dans son intérieur. Mais quelqu'un de naturel, son intérieur s'exprime dans son visage. Donc, moi et mon visage font un. Mon visage, il fait un avec moi-même parce qu'il exprime ce que je suis. De même Hachem. Hachem, dans son entité intrinsèque, divine, authentique, on n'a aucun moyen d'appréhender. Comme notre Neshama, on ne peut pas lui parler, on ne sait pas ce que c'est. Il veut être en contact avec nous. Alors, au Mont Sinaï, premier des commandements, il dit « Ani Anochi Yudke Vavke ». Je suis Yudke Vavke qui était sorti d'Égypte. Et bien, ça l'ont vu. Une apparition d'Hachem.
Qu'est-ce qu'ils ont vu ?
Ils n'ont pas vu comme nous on voit. Ils ont eu une vue prophétique. Ils n'ont pas vu non plus dans le ciel Yud Ke Vav Ke. Le texte dit, on va bientôt lire Parashat Yitro, et le peuple a vu les voix. Je ne suis pas trompé le type qui a écrit. Une voix, ça s'entend. Donc ils ont vu les voix. Les voix V-O-I-X. Comment on peut voir une voix ? Parce qu'on a une vue prophétique qui provient de l'esprit. C'est ni une entente de l'oreille et ni une vue des yeux. Ça vient du cerveau et c'est un mélange des deux. Ça veut dire quoi ? L'écoute, elle fonctionne que... élément par élément. Si je te dis « Bonjour, Lior, comment vas-tu ? » Je dis 5 mots. Je vais les dire l'un après l'autre. Si je dis « Bonjour, Lior, comment vas-tu ? » Ensemble, les 5 mots ensemble, tu ne comprends rien. N'est-ce pas ? Donc l'écoute, c'est un discours qui se veut un après l'autre, détail par détail. Et c'est très profond. Parce que l'écoute, elle peut comprendre une chose que les yeux ne voient pas. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien vu, mais tu as entendu que j'ai tapé avec mon poing sous la table. Donc l'écoute, elle est profonde. Je peux entendre quelqu'un que je ne vois pas. Donc elle est profonde, mais un désavantage, c'est qu'elle voit détail par détail. La vue, elle a des avantages d'être extrêmement superficielle. Je ne peux rien voir plus loin que la couche de couleur qu'il y a sur l'objet. La table, je mets mon poing dessous et la taper, je ne vois rien. Je vois la couche millimétrique, épidermique, d'accord, de la table. Par contre, elle a l'avantage que la vue, elle est générale. Je vois un panorama, je vois pas un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un petit escargot et un brin d'herbe. Je vois, en général, tout. Ça, c'est la vue. Donc, les Israël au Mont Sinaï, ils ont une vue qui était à la fois écoute et à la fois donc profonde comme l'entente, dans le détail comme l'entente et générale comme la vue d'Hachem. Hachem leur dit Anochi, je suis Yudke Vavke. Coucou.
Qu'est-ce qu'ils ont vu?
Ils ont vu Yudke Vavke. Comment ça fait? Quand on sera prophète, on pourra se le dire, d'accord? Comment nous qui n'étons pas prophètes, on peut imaginer une chose pareille? Ils n'ont pas vu comme toi tu comprends une chose matérielle. Ils ont vu une réalité divine. Que Hachem, je suis, quand Hachem, la Torah dit, je suis le terrain qui sort d'Égypte, il parle à nous, donc il se dévoile, il y a eu un dévoilement d'Hachem. C'est vrai que ce n'est pas facile. Preuve en est que leur âme a quitté le corps, ils ont cru qu'ils allaient mourir. C'est marqué que la Torah était donnée dans le feu. C'est quoi le feu? Le feu, bah c'est le feu, d'accord, mais le feu, en fait, sa seule réalité au monde, dont la réalité, elle est destruction de matérialité. Chaque chose dans le monde a une réalité matérielle. Chaque chose matérielle, d'accord ? Une réalité. La seule entité matérielle au monde dont la définition est non-réalité, destruction de réalité, c'est le feu. Ça veut dire que la réalité matérielle, elle a commencé à disparaître. Ils n'ont plus voir Hachem. Nous, notre corps empêche de voir. On a un corps, on est dans le fini. Pour voir l'infini, il faut quitter le corps fini. Ils ont dit, on est en train de mourir. La Torah est donnée dans le feu, je suis en train de perdre mon corps, je suis en train de perdre ma matérialité, je rentre dans une dimension infinie. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe, vas-y toi, nous on ne peut plus. Ils avaient eu tort d'avoir peur parce que c'est marqué que le mont Sinaï était fumé à cause du feu, de la présence de Dieu. Ce n'était pas vraiment feu, c'était fumé. C'est-à-dire presque le feu, presque. Plus de réalité physique. Ils étaient entre les deux, en train de... Ils ont quitté leur corps, c'est vrai. Et Hachem a ramené l'âme dans le corps. Mais ils n'ont pas tenu le coup. Ils ont entendu les premiers commandements, et après ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'il leur traduise la suite, qu'il leur dise la suite, qu'il fasse l'intermédiaire. En tout cas, ils ont vu une réalité divine qui s'appelle Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est le nom d'Hachem. De même que mon visage exprime moi, le nom d'Hachem exprime sa réalité intrinsèque, authentique. Mais à la nuance, que moi et mon visage sont unis de façon, on va dire, d'une certaine unité, qui est absolument complètement désunie par rapport à l'unité qu'il y a entre Hachem et son nom. Quand moi, je fais un acte, on dira « Rav Shaya y fait ». On s'adresse à mon visage, parce que mon visage et moi font un, mais cette unité, elle est très petite. L'unité qu'il y a entre Hachem et son nom, elle est d'une unité la plus grande possible, imaginable, totale, absolue. Il ne faut pas tomber dans un piège que si je m'adresse à Yudke Vavke, je m'adresse qu'à son nom et pas à lui, à Hachem. Je m'adresse à lui. Mais quand je m'adresse à son nom. Parce que son nom et lui font un. Comme quand on parle à mon visage. Mais tu ne parles pas à mon visage. Tu parles à moi. De même, quand je veux parler à Hachem, je vais m'adresser à son nom, parce que lui et son nom font un.
Bah, 372 noms, là.
Pardon ?
Oui, il a le nom Hachem.
Non, il y a un nom de 72 lettres, tout confond, voilà. Il y a plusieurs noms, beaucoup de noms. Comme je vois, ce sont toutes les voies, les différentes voies d'action qu'Hachem utilise. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de noms.
Et chaque nom, il a une signification ?
Absolument, absolument. Alors c'est quoi la bénédiction? Béni sois-tu Hachem. Quand on dit béni, quand on fait une bénédiction, on amène, par le fait de faire la bénédiction, regardez qu'est-ce qu'on fait comme grande action. On amène un flux de la réalité intrinsèque d'Hachem, qu'on appelle la source de bénédiction, vers Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Hachem. Bah, quelque part plus haut, il y a la réalité intrinsèque dont Hachem est la manifestation, le visage quelque part. On amène un flux dans Yudke Vavke. C'est ça la source de bénédiction. De la seule bénédiction, béni sois-tu Hachem, que vienne un flux de bénédiction de lumière divine depuis la source dans Yudke Vavke. Et on a effectivement la force de bénir. Ça veut dire quoi bénir? J'amène un flux.
C'est lui-même le flux de bénédiction.
C'est lui-même, mais on veut qu'il amène de lui-même à sa manifestation qui est son nom.
C'est déjà profond.
C'est profond, c'est profond.
Qui dit
Baruch Ata Yudke Vavke. Oui. Baruch Ata Yudke Vavke, ça veut dire que Yudke Vavke soit béni. C'est quoi béni? Qu'il y ait un flux qui vienne depuis la source dans Yudke Vavke. Ah là là, alors ok, alors j'avais compris la question maintenant. Alors nous maintenant, tout simplement pour une question de respect. Parlons de, Donald. C'est qui Donald ?
Trump.
Ah, il y a deux, il y a Donald Duck et Donald Trump. Tu vas pas aller voir Donald Trump, tu dis, ça va Donald ? Ça ne sait pas. Ou comment s'appelle Hollande, son prénom ?
François.
Salut François. Ça va François ? Pourquoi ça ne sait pas ? C'est un manque d'honneur, tu ne vas pas appeler le roi par son prénom. Sa Majesté veut, Monsieur le Président, tout de même la troisième personne, tu vas parler de lui, n'est-ce pas ? Tu l'appelles avec un nom honorifique. Le nom Yud Kei Vav Kei, c'est le nom intrinsèque d'Hachem, par lequel il se manifeste. Il est absolument impossible qu'un homme prononce ce nom. C'est beaucoup, beaucoup trop et trop fort. C'est un manque de respect.
Hein ? On ne connaît pas les Nekoudot, je crois, non ?
Il y a certaines Nekoudot, mais ce sont aussi des manifestations d'Hachem différentes. Dans les kabbalistes, quand ils pensent au nom de Dieu, t'as Yud Kei Vav Kei écrit avec ces points-là, ces points-là, ces points-là, ce sont des sphères différentes, ce sont des manifestations d'Hachem, des voies de conduite différentes de Yud Kei Vav Kei. Mais le nom habituel auquel on pense, c'est EOA. I-O-A. Comme le mot. Ouais. EOA. D'accord ? Comme les témoins de. C'est comme ça qu'on voit ces points-là. On peut voir sur deux points. I-I-A-A-A, plusieurs. Tu peux avoir Yud Kei Vav Kei avec les EOI, comme Elohim.
C'est depuis le Mont Sinaï qu'ils ont dit qu'il ne faut pas lire Yud Kei Vav Kei ?
Alors, depuis. Non. C'est depuis la parasha de cette semaine, lorsque Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui dit, tu leur diras que c'est Yud Kei Vav Kei qui t'a parlé, Vezeh Zichri Le'olam. Zichri, c'est comme ça qu'on me rappelle, Le'olam, le mot Le'olam, il est marqué sans le vav, on peut lire Le'elem, qu'il faut cacher. C'est comme ça qu'on me rappelle, mais c'est un nom qu'il faut cacher. Donc appelle-moi Yud Kei Vav Kei, quand tu veux dire Yud Kei, tu diras autrement, tu diras Ado. Tu liras Yud Kei Vav Kei, tu penseras Yud Kei Vav Kei, tu diras Ado. Le texte, il signifie déjà tel qu'il est écrit, il y a un signe comme ça nous disant qu'il ne faut pas m'appeler par mon nom tel que je suis vraiment, tu m'appelles avec un pseudo. Un pseudo qui est lui-même simple, parce que je ne peux même pas le dire normalement comme ça. Parce que c'est pas de la blague. On ne parle pas maintenant de François ou de Donald, d'accord, on parle d'Hachem. Alors, Hachem, il est vraiment digne d'honneur plus que ces messieurs. Et, alors, son vrai nom à lui, il est évident qu'on ne peut pas prononcer, mais même le nom honorifique, on le prononce que quand il y a besoin. Sinon, on dit le nom de Dieu en vain, et on passe là, on transfère le troisième des 10 commandements. Celui qui dit le vrai nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, il n'a pas peur au monde futur. C'est extrêmement grave.
Le fait qu'Hachem, il est...
Seul, il y a des cas exceptionnels, c'était les Kohanim, le Kohen Gadol, et les Kohanim aussi. Au temple, alors il disait le vrai nom de Dieu. On voit celui qui lit dans le Sidour israélien, ils mettent cela, je pense, à Yom Kippour, quatre fois le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu Yud Kei Vav Kei. Pardon, dix fois. Il faisait trois vidouilles. Anna Hashem, ô Dieu, disait Yud Kei Vav Kei. Il est ô, disait comme ça. J'ai péché. Moi et ma maison. Anna Hashem, de nouveau, ô Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Comme il est écrit, qui va y avoir un rappel à ce jour-là. Qu'est-ce que jour-là je vous expierai de tous vos péchés, l'ifnei Hachem, devant Dieu, Yud Kei Vav Kei. Il disait trois fois. Et comme on le fait, je ne sais pas comment c'est ça en France, c'est ça en Israël, on lit le texte de la prière, et les Kohanim et tout le peuple d'Israël qui était présent là-bas au temple, quand ils entendaient le nom de Dieu ineffable sortir de la bouche du Kohen Gadol avec pureté et sainteté, sa jeunesse se prosternait face à terre et disait « Baruch Hashem Kohen Morto Lamed ». Et nous on le fait ici, tout le monde se prosterne dans la synagogue. Ça c'est trois fois, maintenant c'est trois vidouilles. Un pour lui et sa femme, un pour lui et les Kohanim, un pour lui et tout Am Israël. Trois fois trois, ça fait déjà neuf. Le dixième, c'est quand il y avait les deux boucs, un devait être sacrifié à l'intérieur, on prenait son sang, on l'aspergeait dans le Saint des Saints, et l'autre, on l'amenait, on le jetait à 11 km d'Israël dans un précipice, c'était le bouc émissaire. On faisait un tirage au sort, et il y avait deux petites plaquettes, une sur laquelle c'était marqué l'Hachem, pour Dieu, et l'autre c'était marqué l'Azazel, pour l'Azazel. Il y avait une miracle qui se passait, toujours c'était le Hachem qui sortait, alors il mettait, tac, il le posait sur la tête du bouc, il disait l'Hachem Hatat, pour Dieu, un sacrifice Hatat. Ce l'Hachem disait avec le vrai nom de Dieu, lisse. Et les Kohanim et les Bnei Israël qui étaient présents dans la Hazara, quand ils entendaient le nom de Dieu ineffable sortir de la bouche du Kohen Gadol avec sainteté et pureté, s'agenouillaient, se prosternaient à terre et disaient Baruch Hashem Kohen Malchut Olam Va'ed. C'est la seule fois où on a le droit de prononcer le nom de Dieu, ainsi que les Kohanim dans Birkat Kohanim, au temple. Ils avaient la Shrina entre les doigts. Aujourd'hui, on ne regarde pas les doigts des Kohanim quand ils font Birkat Kohanim simplement pour plus se concentrer. Mais à l'époque du temple, au temple, lorsqu'il faisait Birkat Kohanim, comme ça, avec les doigts comme ça, il devait faire 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait la Shrina entre leurs doigts. Ceux qui regardaient, ils étaient aveuglés.
Pourquoi entre les doigts? C'est quoi cette explication?
Ça passait. C'est passé. Ça passait. C'est comme ça qu'Hachem. On pourra faire un cours là-dessus à l'occasion, Blinader. C'est comme ça qu'Hachem leur donnait de faire pour que ça passe. D'accord? Donc, c'est dans ces cas. Extrêmement rare et d'une pureté divine qu'on pouvait prononcer ces noms-là. Sinon, en aucun cas.
Sauf faire qu'il lit ce qu'il écrit vraiment. Il ne
peut pas lire cela. D'abord, quand il écrit le nom à Sofer, un scribe, quand il écrit le film, Sefer Torah, avant chaque nom qu'il va écrire le nom de Dieu, il va dire j'écris maintenant pour la sainteté du nom de Dieu. S'il n'a pas dit ça, le tefillin n'est pas valable. Il a écrit un beau tefillin, super joli, ce qui se vend à 2 000 €. Il n'a pas dit « J'écris maintenant le nom de Dieu pour sa sainteté » avant d'écrire, ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'il faut compter sur un sofer sérieux bien. Et il y en a qui vont au mikvé tous les matins, il y en a qui vont au mikvé pour chaque nom. Et c'est pas n'importe quoi. J'avais un ami qui était un grand sadique, il a commencé à écrire, la première fois qu'il a écrit le nom de Dieu, il a transpiré 5 litres. C'est un sadique. C'est un nom très très puissant. Hein?
Donc c'est du manque de respect de l'appeler par le Québec.
Ouais, c'est un manque de respect très grand.
C'est lui qui l'appelle par son prénom.
Comprenez que les noms, ils ont un impact. Quand tu dis Baruch Atah, quand tu pries, tu dis le nom de Dieu, tu agis. C'est pour ça qu'il n'est pas bien non plus d'appeler les noms d'impureté. Le nom, le Sat. Le Sat et le An, d'accord? Qu'on appelle le Sat et puis le An. Pas le droit de le dire. Surtout pas la nuit, parce que tu évoques son nom, hein. Ça vient, même Yetzara, en français.
C'est deux trucs différents entre le Yetzara et ça.
Yetzara, on le dit plus, parce que c'est pas son nom intrinsèque, c'est un peu...
Azazel et le Yetzara,
c'est... Azazel, c'est deux choses, ça n'a absolument rien à voir. Mais par exemple, les démons, c'est pas bien, on dit Shindalet, on n'est pas les Shed, ouais. D'accord le Sat, c'est écrit même de pas dire Dia et après Bolo. Alors, si tu appelles la boisson, ça va. Mais si tu appelles maintenant le dia et après bleu, c'est un problème, d'accord? Parce que quand tu évoques, tu as une puissance, tu appelles. On m'a raconté une histoire qui était connue, mais je n'ai jamais vérifié avec le type. C'était un type non-croyant qui était dans les commandos en Israël, etc. Tu vas voir un kabbaliste, dit, moi je ne crois pas à votre truc, je veux voir que ça existe. Il dit, bon, va la nuit au bord de la mer et répète plusieurs fois, il a dit, je ne vais pas vous le dire pour pas que les gens s'amusent à ça là sur Internet, un nom d'une force impure très grande, d'accord? Et à répéter, au bout d'un moment, il paraît qu'il a couru en hurlant des kilomètres sur le bord de mer, en hurlant. Ce que Chazal a institué, on peut le dire.
Quand on a part au monde futur, on s'attache à la source de bénédiction.
J'ai pas compris.
Quand on monte, on est jamais remonte.
Personne n'est...
Vous attachez à la source de bénédiction ou au nom du Kivavke?
Nous, notre âme, elle est dans Yud Kivavke. Où se trouve Olam Haba, j'ignore. Mais il y a plusieurs niveaux. Je sais qu'on dit qu'il y a le paradis inférieur, le paradis supérieur. Donc j'imagine...
Ce que je veux dire dans la question, c'est Yud Kivavke, c'est l'interface pour le monde d'ici, mais est-ce qu'en haut, on est en contact avec la source même?
J'ignore où on se trouve dans l'Olam Haba. Il y a des niveaux. C'est clair que Rabbi Shimon bar Yochai et toi et moi, on ne sera pas au même niveau. Mais c'est bien profond et c'est infini surtout. Hachem s'est dévoilé à Abraham Tsarkakov avec Yud Kevavke déjà. Oui, ouais, bien sûr.
Ça, okay. Ça le rend fini un peu quand même. Parce que le fait qu'il ait un nom à Hachem, déjà on définit quelque chose qui est indéfinissable, et ça rend fini quelque chose qui est infini.
C'est pour qu'il puisse s'adresser à nous, qu'on puisse s'adresser à lui.
C'est une sorte de filtre par rapport à nous.
C'est un moyen de l'appréhender, d'être en contact. C'est ce qu'il a voulu. Mais il ne faut pas oublier que son nom est...
Il a mis ça pour notre connexion.
Voilà. Mais attention, il faut bien comprendre que lui et son nom font un. C'est un, un, un. C'est pas que c'est pas un écran. Quand tu parles à ton père ou à ta mère par Skype, d'accord, alors il n'est pas dans l'écran, ton père et ta mère. Il est à Paris. Mais quand tu parles à Hachem par rapport en appelant son écran, c'est lui. Baruch Adonai, Roman Bahamé.